Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Cela fait maintenant 10 jours, hein. Vous le savez que la France vit au rythme du confinement, nous comme vous d'ailleurs, et chaque jour nous sommes à vos côtés pour essayer de vous aider, de vous donner aussi des solutions, de vous montrer que dans cette crise finalement que nous traversons ensemble, il y a aussi des Français qui s'investissent, qui pensent collectif et qui agissent pour que nous sortions plus vite de cette situation. Que nous en sortions plus forts aussi et plus unis. C'est à eux que nous voulons continuer à donner chaque jour la parole en direct sur Europe 1. Aujourd'hui, gros plan sur la problématique du moment, une des problématiques importantes, celle des masques. Vous êtes évidemment nombreux, industriels, PME, filières, à vous être rassemblés pour que la population tout entière puisse recevoir une dotation. Où en sommes-nous? C'est ce que nous allons voir dès 13h. Rendez-vous juste après le Grand Journal avec vous, Pierre de Villeneuve, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Europe 1, il est midi.
Nous déplorons le décès d'une adolescente de 16 ans survenue en Île-de-France.
Elle avait 16 ans, oui, et s'appelait Julie. Elle est la toute première adolescente morte du coronavirus en France. Ce décès chamboule, Pierre, les critères d'âge qui avaient été établis au début de l'épidémie.
Et pour cela, nous recevrons le pédiatre et infectiologue Robert Cohen. Nous verrons ensuite que l'épidémie gagne toute la France, mais pas de la même façon ni au même moment. Aurélien Rousseau, le patron de l'agence de santé d'Île-de-France, répondra à nos questions.
Les masques, toutes les entreprises s'y mettent. Nous verrons dans une demi-heure qu'une grande enseigne de textile va fournir les hôpitaux et la police. Et nous serons aussi avec le patron de la FNOR qui va édicter un protocole unique pour faire les masques barrières. C'est une information Europe 1.
Dans ce journal également, au chapitre de l'incivilité et de l'indécence, des soignants menacés par leurs voisins, on va jusqu'à leur demander de déménager à cause du coronavirus.
C'est pitoyable. J'étais extrêmement en colère, la tristesse aussi. On n'est plus sous la collaboration, quoi. Hors de question qu'on me menace et qu'on me dise de partir de chez moi.
La ruée sur la chloroquine, certaines pharmacies n'en ont plus. On vérifie désormais scrupuleusement toutes les ordonnances.
Le Covid-19 et la crise, la ministre du Travail suit la CFDT dans sa démarche de ne pas verser les dividendes, ce qui est différemment apprécié.
Les salariés ont un certain nombre de garde-fous qui leur permettent de percevoir de leur rémunération, alors que les actionnaires subissent l'intégralité du risque.
Et puis une histoire rocambolesque, digne d'un roman policier. On vous expliquera comment Michel Hidalgo, disparu hier, avait en 1989 tenté de recruter Diego Maradona sur les ordres de Bernard Tapie. La météo, bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Et c'est humide au sud aujourd'hui.
Oui, encore hein, sur les Alpes du Sud, la Corse, les Pyrénées, le littoral méditerranéen. Le ciel est encore aujourd'hui très nuageux avec des averses. Partout ailleurs, il fait beau et le thermomètre sera en légère hausse. Pierre, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Merci Anissa, on vous retrouve juste avant 13h sur
Europe 1. À tout à l'heure.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est donc un décès qui perturbe, Pierre, toutes les prévisions. Jusqu'à présent, Julie, 16 ans, a succombé au coronavirus.
Oui, et ce alors que, rappelons-nous, que depuis le début de l'épidémie, tous les médecins nous disent que les plus vulnérables, ce sont les seniors. Jeanne Bergaoui, le plus étonnant, c'est que Julie n'avait pas spécialement d'antécédents médicaux.
Exactement, aucune maladie particulière, aucun facteur de risque, rien donc qui laissait soupçonner que Julie puisse être contaminée par le Covid-19. D'ailleurs, face aux premiers symptômes, sa famille n'est pas particulièrement inquiète puisque les jeunes ne sont pas censés être une cible du virus. Elle tente de soigner sa toux avec des sirops et des inhalations, puis les quintes s'intensifient, Julie est essoufflée. Lundi, sa mère l'emmène consulter un généraliste. Là, tout s'accélère, le médecin diagnostique une détresse respiratoire, les pompiers la conduisent immédiatement à l'hôpital de Longjumeau, près de chez elle. Dans la nuit, son état s'aggrave. En insuffisance respiratoire, la jeune fille est transférée vers l'hôpital Necker. On lui fait deux tests du Covid-19, tous les deux négatifs. Mais mardi soir, son état se dégrade encore. Un autre résultat tombe. Julie est en fait positive. Elle est intubée et succombe dans la nuit. Cette jeune lycéenne de 16 ans en bac pro est donc la plus jeune victime, la première mineure à mourir du Covid-19. Victime d'une forme sévère du virus, extrêmement rare selon Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Les obsèques de Julie auront lieu la semaine prochaine. Il n'y aura pas de cérémonie. 10 personnes seulement seront présentes au cimetière. Consigne des autorités.
Merci Jeanne Bergaoui. Bonjour professeur Robert Cohen.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes à la fois pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce décès? Si tant est qu'on puisse l'expliquer d'ailleurs.
Alors, il faudrait dire que il n'a jamais été dit que les enfants n'étaient pas touchés. Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins touchés que les adultes. Aujourd'hui, dans la région parisienne, alors que les services de médecine d'adultes sont complètement débordés par le nombre de cas de Covid-19, nous avons relativement peu de consultations pour des patients Covid-19 et les services ont peu d'enfants ont été hospitalisés dans les services, encore moins en réanimation. Donc le risque a toujours existé, il est infiniment moins important que chez des adultes plus âgés, encore plus chez des sujets âgés. Donc le risque existe, ça confirme le rôle du confinement, ça confirme qu'il faut être prudent, mais il est bien moins important que pour les adultes.
Professeur Robert Cohen, on avait entendu dire jusqu'à présent qu'il y avait un âge, celui de 14 ans, et qu'en dessous de cet âge, effectivement, les enfants étaient considérés comme, entre guillemets, porteurs sains.
Alors, il faut que je corrige cette idée. Les enfants sont moins souvent porteurs que les adultes de ce virus. On a que des premiers éléments. Ils tombent beaucoup moins souvent malades que les adultes. Ils font beaucoup moins souvent de maladies graves. Ils ont beaucoup moins souvent besoin de réanimation. Tout ça réduit, et la mortalité est très faible. Mais comme on l'a vu dans ce cas malheureux, ça peut aboutir jusqu'au décès. Donc le risque est beaucoup moindre, mais il n'est pas nul. Et il y a peu de choses comme ça en médecine, on peut dire que le risque est nul. Donc
professeur
il faut
Cohen.
À la fois rassurer, mais dire que c'est possible, et ça confirme l'importance aussi du confinement des enfants.
J.N. Bergaoui le précisait dans son sujet, professeur, c'est visiblement une forme rare du virus qui a tué cette pauvre Julie, 16 ans. Est-ce que ces formes rares, elles existent? Si oui, à quelle proportion? Et si c'est nouveau, est-ce que c'est inquiétant?
Alors, ce n'est pas nouveau, je vais remonter à l'inverse. Deux, la population pédiatrique et la population des jeunes est beaucoup moins à risque que les adultes, même jeunes, et a fortiori des adultes plus âgés. Donc, mais le risque zéro n'existe pas. Dans tout ce qui a été publié à la fois en Chine, en Italie et dans d'autres pays, la proportion d'enfants dans les formes graves est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins importante, on va dire 10 à 100 fois moins importante que dans le reste de la population. Oui, le risque existe, mais il est absolument minime, renforçant l'importance du confinement.
Est-ce que vous avez peur de la surcharge désormais dans les unités pédiatriques, ou est-ce que vous restez sur, comme vous l'avez dit à l'instant, ce ratio qui, fort heureusement, il y a quand même des nouvelles qui sont à prendre avec un peu de recul. Est-ce qu'il y a une surcharge à attendre ou pas?
Alors, ce qui s'est passé en Chine et en Italie a montré que les services de pédiatrie ne sont pas rentrés en phase de surcharge comme les adultes. Donc ceux qui nous ont précédés dans la pandémie nous ont donné des chiffres extrêmement rassurants. Aujourd'hui, dans les régions françaises où la pandémie est survenue, où la vague d'hospitalisation est survenue, nous n'avons pas de surcharge dans les services de pédiatrie, en particulier relativement peu de patients Covid+. Mais comme vous l'avez dit, nous sommes au début d'une épidémie, elle peut éventuellement changer de caractère, mais franchement, on n'y croit pas beaucoup. C'est pas le virus qui a changé, c'est des formes cliniques de la maladie qui peuvent être différentes et peuvent s'exprimer différemment. Donc, nous ne sommes pas inquiets. Il n'empêche qu'il faut rester vigilant et respecter les mesures de confinement et ne pas hésiter à montrer les enfants quand ils sont malades, en particulier les adolescents.
Eh bien, merci de ces explications très claires, professeur Cohen. Je rappelle que vous êtes pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil, en région parisienne.
Et cette épidémie, Pierre, de Covid-19, qui touche donc en ce moment tout particulièrement l'Île-de-France, frappe aussi tout le reste de l'Hexagone.
Oui, plus ou moins gravement, plus ou moins rapidement. Ève Roger, comment ça se passe région par région?
Pour l'instant, c'est clair, la France est coupée en deux par une ligne qui va de Lille à Perpignan. Côté Est, la région la plus meurtrie, le Grand Est, a essaimé vers l'Île-de-France, mais aussi vers le Sud-Est, Lyon et Marseille, où la vague est attendue dans les tout prochains jours. Côté Ouest, la façade qui va de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine semble pour l'instant plus épargnée. Mais une chose est sûre, toutes les régions vont connaître le même scénario, une vague et un pic, parce que le virus circule partout en France et que le nombre de cas augmente partout, jour après jour. Mais le pic ne sera pas du même niveau en fonction des régions, expliquent les experts. car la gravité de l'épidémie dépend d'abord du respect du confinement. Le pic est moins haut là où les consignes sont suivies à la lettre. Ensuite, du nombre de cas au départ, il y a fort à parier que le centre Val-de-Loire, où il n'y avait que 17 cas début mars, sera moins impacté que les Hauts-de-France, où il y en avait 192. De la densité de la population enfin, plus il y a de monde à infecter et plus les risques de contamination sont grands. Et puis, les Franciliens qui ont quitté la région capitale ont-ils contribué à essaimer le virus sur le territoire ? Aucun chiffre aujourd'hui ne permet de le confirmer, mais à eux de respecter strictement le confinement.
Ève Roger, un avion militaire a d'ailleurs décollé en direction de Mulhouse pour une nouvelle évacuation sanitaire de patients atteints du coronavirus, cette fois-ci direction Bordeaux. Et puis Bruno Rioux de l'APHP demande qu'on pousse les murs partout pour accueillir le plus possible ces patients en réanimation et qu'on sorte les patients de l'Île-de-France pour les dispatcher dans les autres hôpitaux.
Bonjour Aurélien Rousseau.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. C'est une hypothèse, ça, sortir les patients d'Île-de-France ?
La première chose à dire, peut-être, c'est de dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont besoin d'être prises en charge en réanimation en Île-de-France l'ont été. Elles l'ont été dans tous les départements, y compris en Seine-Saint-Denis, même si elles n'ont peut-être pas été hospitalisées en Seine-Saint-Denis, mais le système, c'est un système qui est piloté régionalement. La deuxième chose à dire, c'est que nous nous battons pied à pied, comme un combat de tranchées, pour ouvrir des lits chaque jour, et nous sommes capables, à l'heure où je vous parle, d'ouvrir 500 lits de plus dans les 24 prochaines heures. Et donc ensuite, évidemment que toutes les hypothèses sont sur la table. Celle du transfert, celle de dispositifs spéciaux d'accueil, il n'y a là-dessus aucune ambiguïté. Mais ma priorité, celle de l'Agence régionale de santé, c'est de pousser les feux au maximum de ce qu'on peut faire pour l'Île-de-France, parce que comme Ève Roger l'a dit tout à l'heure dans son intervention, le risque, il est quand même que cette épidémie, elle se déplace ailleurs. Et donc, il faut que quand on décide d'évacuer des malades vers d'autres régions, on sache qu'elle soit quand même en capacité d'accueillir le malade le jour où l'épidémie sera chez elle.
Oui, et donc j'allais dire, vous êtes en contradiction avec ce que dit Bruno Rioux, mais non, puisque là, en l'occurrence, c'est encadré. Est-ce qu'on va devoir mettre un hôpital de campagne, un hôpital militaire, comme ça a été le cas à Mulhouse ?
Aujourd'hui, notre stratégie principale, c'est de mobiliser des capacités, de rouvrir des lits dans des structures hospitalières qui existent et qui ont déjà des services de réanimation pour, d'une certaine manière, avoir une tête de pont. Voilà, donc
Y compris les établissements privés.
Y compris les établissements privés qui sont très largement mobilisés. C'est donc l'APHP, c'est les hôpitaux publics hors APHP qui font un boulot exceptionnel, mais c'est aussi le privé, ce sont les ESPIC, le privé non lucratif, qui sont tous mobilisés dans une très grande transparence sur les moyens des uns et des autres. Encore une fois, qui pourrait dire dans le Covid, quand on voit les trois derniers mois qu'on a passés, qu'on a des certitudes absolues sur ce qui se passe dans une semaine ? Moi, je dis, on étudie tous les scénarios, mais à très court terme, notre bagarre, c'est celle d'ouvrir le plus de lits possible en Île-de-France pour jouer aussi notre rôle et éventuellement plus tard, quand on aura passé le pic en Île-de-France, être en situation de solidarité avec les autres régions.
Donc ces 500 lits supplémentaires, ils seront disponibles quand ? Est-ce que vous avez des dates à nous donner aujourd'hui sur Europe 1 ?
Ce que je peux vous dire, c'est que ces 500 lits supplémentaires, donc je l'ai dit tout à l'heure, on va les ouvrir dans les 24 heures qui viennent. Donc on aura de quoi passer le week-end. On gagne jour après jour, on n'a pas de la visibilité à 15 jours. On gagne jour après jour, et jour après jour, à la fois, on ouvre des lits, il y a des patients qui sortent, il y a des patients qui sortent guéris, on met en place les dispositifs de post-réanimation. Donc le but, mais là aussi vous le savez, c'est notre seul, l'élément déterminant, ça va être celui des résultats du confinement. Et plus le confinement va être respecté extrêmement strictement, plus on peut espérer que la courbe de sollicitation des réanimations se tasse un peu. C'est le déterminant essentiel. Parce que évidemment, on ne va pas pouvoir ouvrir des places de réanimation. Comme ça, on a déjà fait plus que doubler le nombre de places de réanimation en Île-de-France. Et donc maintenant, il faut que le confinement produise ses résultats. Et quand je dis « il faut », donc nous l'attendons. Et il faut que nos concitoyens comprennent qu'en faisant ça, ils ont un impact direct sur la situation dans les hôpitaux.
Aurélien Rousseau, vous le mentionniez vous-même tout à l'heure en faisant référence à ce que disait Ève Roger, le fameux ces patients qui sont allés peut-être, potentiellement, essaimer, hein, je reprends ce verbe, essaimer le virus en région. Il y a deux, j'allais dire, deux pensées contradictoires. Il y a ceux qui disent, oui, mais en même temps, ça permet de désengorger l'Île-de-France et de justement, finalement, de faire face au virus dans toutes les régions. Et il y a ceux qui disent, mais non, parce qu'en Île-de-France, on est quand même beaucoup plus armé que dans le reste du pays. C'est quoi la bonne version ?
La bonne version, je ne sais pas quelle elle est. Ce que je peux dire, c'est que moi, je ne peux pas me rassurer en me disant que ces patients ont fait baisser la pression sur l'Île-de-France, puisqu'ils sont bien, ces patients, ces personnes, ils sont bien quelque part, et une partie d'entre eux vont devenir des patients, une partie d'entre eux vont contribuer à disséminer l'épidémie dans le reste du pays. Après, ce que je sais, c'est vrai que l'Île-de-France a une armature hospitalière exceptionnelle en Europe, mais elle est déjà sous une pression énorme. La pression est vertigineuse. Quand je dis que nous aurons plus que doublé le nombre de lits de réanimation, la réanimation, c'est le type de lit le plus technique, le plus outillé qu'on a dans un hôpital. Donc ça a été un travail immense des soignants, des directeurs d'hôpitaux qui se sont battus pour pouvoir monter ça. Donc j'ai confiance, une très grande confiance dans le système hospitalier francilien, mais le système hospitalier francilien, il n'est pas isolé, on est en lien permanent avec tous nos collègues dans toute la France, et j'espère encore une fois que le délai qui va courir avant que d'autres régions soient contaminées nous permettra à nous, à un moment donné, de les aider, comme elles vont sans doute nous aider à très court terme, que ce soit éventuellement par des transferts, que ce soit par le fait de nous envoyer des médicaments, ou que ce soit par le fait de nous envoyer des personnels. Évidemment qu'il faut cette solidarité.
Une toute dernière question que je posais également tout à l'heure à Robert Cohen. Est-ce qu'après le décès de Julie, 16 ans, est-ce qu'on va devoir repenser les unités pédiatriques ? Chose à laquelle on n'avait peut-être pas forcément pensé avant.
Aujourd'hui, moi, le professeur Cohen vous a répondu et vous a donné des éléments. Moi, je ne veux pas commenter, je ne suis pas médecin. Non,
je m'adresse quand même au directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France.
Je pense que dans cette crise, ce qui est important, c'est qu'on dise toujours d'où on parle. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne singe pas ce que peuvent dire les médecins, mais je réponds à votre question. Aujourd'hui, nous avons des unités de réanimation pédiatrique qui ne sont pas saturées. Nous avons des équipes exceptionnelles qui vont prendre en charge et évidemment, au jour le jour, en fonction des données nouvelles qu'on a sur ce virus, on en a dans tous les compartiments de la question, des données nouvelles, on réévalue et on réévaluera s'il faut. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est que les équipes médicales se bagarrent pour prendre en charge ces jeunes patients. Et je leur fais là aussi confiance parce qu'on a des équipes remarquables en Île-de-France et dans le reste de la France. Mais aujourd'hui, on a de la capacité en réa pédiatrique.
Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment Aurélien Rousseau d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous êtes le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Le Premier ministre Édouard Philippe est apparu tout à l'heure. Il a encouragé une nouvelle fois le personnel médical, mais aussi tous ceux qui sont sur le pont. Il a laissé d'ailleurs entendre, vous allez entendre, qu'on était parti pour de longues semaines de confinement.
Nous nous installons dans une crise qui va durer, dans une situation sanitaire qui ne va pas s'améliorer rapidement. Il va falloir tenir, il va falloir rester extrêmement mobilisé. La vague épidémique qui déferle sur la France, qui a frappé la région Grand Est la première, qui est en ce moment en train d'arriver en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, dans d'autres régions françaises, est une vague extrêmement élevée et elle soumet l'ensemble du système de soins, l'ensemble du système hospitalier à une tension redoutable. Les équipes médicales font face avec à la fois beaucoup de précision et beaucoup de courage. Elles ont considérablement augmenté leur capacité d'accueil. C'est un exploit remarquable, mais la situation va être difficile pendant les jours qui viennent et je veux l'indiquer clairement.
Édouard Philippe avec Jean-Gabriel Bourgeois, midi 18 sur Europe 1.
Europe 1.
Et vous restez avec nous, bien sûr. Après la pause, le plaquenil, les gens se ruent dessus, mais attention, priorité à ceux qui en ont besoin régulièrement. C'est ce qu'on va voir ensemble. À tout de suite.
Europe 1. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et c'est Pierre la ruée sur l'hydroxychloroquine. La publicité autour de ce remède est telle que parfois, même sans le savoir, eh bien, les Français dévalisent les pharmacies.
Et certaines sont déjà en rupture de stock, Raphaël. Certains médecins complaisants prescrivent du plaquénil à des malades du Covid-19. Résultat, les patients qui prennent ce médicament pour des maladies chroniques comme le lupus, eh bien, ont du mal à s'en procurer. Mathieu Charrier.
Depuis une dizaine d'années, Sophie prend quotidiennement du plaquénil pour traiter son lupus. Elle arrive au bout de sa toute dernière plaquette, mais impossible d'en trouver en pharmacie.
La pharmacienne m'a répondu qu'il n'avait plus de plaquénil depuis déjà une semaine et demie, qu'elle s'était mise déjà en contact avec ses confrères qui n'arrivaient pas à joindre le laboratoire Sanofi. Donc, en effet, je suis inquiète.
Car depuis plusieurs jours et les déclarations du professeur Raoult, certains ont obtenu des ordonnances de la part de médecins complaisants et se sont rués sur le peu de stock en officine, ce qui a poussé l'agence du médicament à prendre un décret en urgence publié hier, obligeant désormais les pharmaciens à délivrer du plaquénil qu'aux malades chroniques. Pour en recevoir, ils doivent même envoyer les ordonnances directement à Sanofi. Le laboratoire qui affirme qu'il n'y a pas de pénurie, nous sommes même prêts à en offrir aux autorités 300 000 boîtes pour les essais cliniques, précise ses communicants. Et c'est seulement une infime partie de notre stock. L'usine française qui fabrique le plaquénil tourne d'ailleurs à plein régime et le laboratoire ne craint aucun problème de matière première puisqu'il précise fabriquer à la fois le principe actif de base, puis s'occuper ensuite de le transformer en médicament. Toute la chaîne est donc assurée, conclut-il.
Mathieu Charrier, on apprend à l'instant que le Premier ministre Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a été testé positif au coronavirus. Downing Street fait part de légers symptômes.
Hier, Pierre, nous évoquions la situation dans les EHPAD avec ce qui a été dit par les spécialistes tout à l'heure dans le journal. On ne peut que doublement s'inquiéter.
Oui, c'est pour cela qu'une dizaine d'EHPAD de Charente et de Normandie ont décidé d'appliquer la règle « rester chez soi ». Le personnel va se confiner avec les personnes âgées et ce pour les semaines à venir. Romain Oquet.
En se confinant avec eux, on peut les sauver. C'est vraiment le dernier rempart, quoi. La dernière chance.
Dans cette EHPAD charentaise, la salle de réunion est transformée en dortoir pour les aides-soignants, infirmiers, cuisiniers confinés avec les résidents. Aucune entrée, aucune sortie n'est autorisée. Parmi les salariés volontaires, Mathilde.
Comment on fait si ça arrive chez nous ? Ça semblait une évidence, en fait, de se confiner, puisque de toute façon, on n'a ni masque, ni gants, ni blouse en quantité suffisante pour ne serait-ce qu'une ou deux journées.
Même règle dans cet établissement normand où Julie et ses collègues infirmières se sont installées.
C'est vrai que j'avais un peu la boule au ventre parce que j'avais peur d'être infectée et de ramener ça chez moi et d'infecter aussi mes enfants. Et là, le fait d'être à l'EHPAD, mes enfants me manquent forcément, mais on protège tout le monde en fait en faisant ça.
Une présence rassurante pour les résidents car comme Michel, ils n'ont plus de visite de leur famille.
Elles vivent notre vie. Avec nous, c'est de l'abnégation, je n'ai pas assez de mots assez élogieux, moi ça m'éblouit.
Seul risque, admettent les salariés, un porteur sain parmi les confinés. Les équipes feront le point dans 2 semaines pour évaluer le dispositif.
Roman, ok, chaque jour malheureusement Raphaël, nous assistons à des gestes d'incivilité, on ne peut pas tous les dénombrer, mais ce qui nous choque plus, c'est lorsque des gens s'en prennent aux soignants.
Oui, avec des comportements, on peut le dire Pierre, indignes, comme des lettres anonymes demandant de déménager de l'immeuble pour éviter une potentielle contamination. Mathieu Bock, c'est ce qui est arrivé à Lucille, infirmière en région parisienne.
On n'est plus sous la collaboration, quoi. Hors de question qu'on me menace et qu'on dise de partir de chez moi.
Lorsqu'elle a découvert une lettre anonyme au milieu de son courrier le soir en rentrant du travail, Lucille, infirmière dans un hôpital parisien, a eu bien du mal à en croire ses yeux.
Nous savons que vous êtes infirmière et nous vous remercions d'exercer ce beau métier. Néanmoins, nous vous demandons s'il serait possible que vous et votre mari alliez résider ailleurs pendant la durée de la contamination pour éviter de contaminer d'autres personnes et de faire vos courses en dehors de la ville. Vous serez de nouveau les bienvenus dans la ville quand tout sera terminé. Merci de prendre en compte notre demande et de faire le nécessaire pour partir rapidement. C'est pitoyable. J'étais extrêmement en colère, la tristesse aussi, parce que on met quand même beaucoup notre vie de côté pour pouvoir répondre aux besoins de la population durant cette crise. Et on n'a pas besoin d'être mis à l'écart comme des pestiférés parce qu'on est en présence de patients du Covid. Donc on s'en affranchit parce qu'il faut continuer. Il ne faut pas prendre en compte ce que les gens disent. Je vous garantis que ce n'est pas facile.
Lucille a depuis confié cette lettre à la police en lui demandant de trouver d'éventuelles empreintes. En attendant, elle continuera à vivre normalement, dit-elle, et à promener son chien autour de chez elle, quitte à croiser sans le savoir l'auteur de cette lettre.
Nous abordions ce sujet cette semaine dans ce journal. Le risque d'explosion, Pierre, des violences conjugales en cette période de confinement.
Oui, et avant d'aborder ce sujet, nous allons passer à Mélanie Gomez avec le 3921, les questions des auditeurs avec le hashtag également Radio Ouverte. Bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien aujourd'hui.
Mais oui, formidable. Fabuleux, merci à la technique, merci au MMA et, vraiment, et à tous nos techniciens à Europe 1. Caroline Desvreux vous pose cette question, ma chère Mélanie. Est-ce qu'on peut congeler tout ce qu'on ramène de l'extérieur, par exemple les fruits et légumes, les aliments du supermarché? J'imagine, dit-elle, que la congélation doit bien nous débarrasser de cette saleté de virus.
Alors Caroline, non, hein, surtout pas. La congélation, c'est totalement déconseillé. En fait, c'est valable d'ailleurs pour la majorité des virus. La congélation ne permet pas du tout de tuer le coronavirus. Tous les experts le disent. On a décrit des situations dans lesquelles, on le sait, des virus ont perduré des centaines de milliers d'années en étant gelés. Donc vraiment, ce n'est pas une bonne idée de faire ça chez vous, à moins que vous ayez envie de garder des dangereux souvenirs dans votre congélateur. De même, on a reçu aussi des questions dans ce sens. Pas la peine non plus de mettre vos vêtements, vos chaussures à congeler. Vous aurez le même problème. Ce n'est pas efficace, voire même dangereux. Donc la marche à suivre recommandée par les autorités en ce moment quand on rentre des courses avec des aliments éventuellement suspects qui ont pu être touchés par des mains contaminées, c'est d'abord de laisser tout ce qui n'est pas frais dehors pendant au moins 3 heures, d'enlever tous les emballages quand c'est possible dès votre retour, le carton autour des yaourts par exemple, et puis pour les fruits et légumes notamment, il faut bien les laver avec de l'eau et même du savon, pourquoi pas, vous rincez tout ça derrière, vous vous lavez bien sûr les mains après tout ça aussi, et puis sachez par contre qu'à l'inverse, la cuisson, donc la chaleur élevée au-delà de 63 degrés, ça c'est efficace pendant au moins 4 minutes. Ça suffit à se débarrasser de toute trace du virus. Donc vous pouvez le faire par exemple avec le pain que vous ramenez chez vous. Si vous avez un doute, vous mettez votre petite baguette au moins je sais pas, à 80 degrés par exemple, 5 minutes et le tour est joué.
Oui, puis c'est bon le pain chaud en plus.
Oui, c'est un peu chaud, c'est encore meilleur.
Mélanie, on a Madeleine, 64 ans à Paris, qui nous écrit, qui nous dit « Avec mon époux, nous aimerions partir dans notre maison à la campagne en Bourgogne à la fin des 2 semaines de confinement que nous avons très bien suivies. Est-ce que vous pensez que nous aurons le droit ?
Alors non, malheureusement, c'est très bien déjà d'avoir suivi les règles de confinement depuis le début, ça c'est bien, et j'espère que tout le monde fait ça évidemment. Concernant par contre votre envie donc de changer d'environnement, je comprends tout à fait, mais je vais peut-être vous décevoir, vraiment c'est pas conseillé, je dirais même que c'est interdit. Le gouvernement a été très clair, le lieu de confinement ne doit pas changer, il y a juste quelques exceptions à cette règle. Si vous arrivez par exemple à la fin de votre contrat de location pour votre appartement, que vous avez un déménagement donc qui était programmé avant l'épidémie, ou alors si vous devez aller porter secours à une personne très âgée ou handicapés, ou alors, à les dernières exceptions, pour les enfants qui sont en garde partagée. Bref, dans votre situation, en tout cas, je n'ai pas l'impression que vous soyez dans une de ces situations-là, pardon. Donc ma réponse va être non, vous n'avez pas le droit d'aller vous confiner à la campagne, restez chez vous, continuez à vous protéger un maximum, et c'est vraiment valable pour tout le monde, hein. On ne gagnera pas ce combat contre le coronavirus si on ne respecte pas cette règle. À chaque fois, finalement, il faut le garder en tête pour nous tous, hein. Oui. Qu'on met un pied dehors, on augmente son risque d'être contaminé ou de contaminer ses proches.
Ouais, merci à Madeleine de sa question. Ça nous rappelle un peu le petit sketch qu'a posté Lison Daniel, hein, sur cette dame qui a toute sa famille qui est éparpillée dans les maisons de campagne. Merci beaucoup Mélanie Gomez. On vous retrouve tout à l'heure à 15h pour Sans Rendez-vous, midi 28.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on parle de l'explosion des violences conjugales en cette période de confinement. Ça inquiète tout particulièrement les autorités. On va en parler avec le porte-parole de la police nationale. A tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et je vous le disais tout à l'heure, hein, dans ce journal, nous vous en avons déjà parlé, le risque d'explosion des violences conjugales en cette période de confinement, Pierre.
Et les interventions des forces de l'ordre ont tout simplement explosé depuis la mise en place du confinement. Une hausse de 32% en zone gendarmerie, 36% sous le ressort de la préfecture de police de Paris. Ce n'est pas une surprise pour les brigades spécialisées. Marion Dubreuil.
Oui, dans la Somme, la gendarmerie avait anticipé il y a 15 jours le major Claude Guyard, chef de la brigade famille, qui est intervenu à 1300 reprises l'an dernier, a mis en place un dispositif d'appel régulier avec les victimes déjà identifiées.
On va lui proposer de se téléphoner s'il le faut plusieurs fois dans la semaine. Pour les situations où on sait que les dames ont un petit peu de difficultés à pouvoir s'exprimer sans alerter le conjoint, nous leur proposons de travailler par texto pour justement mesurer au mieux la nécessité de la rencontrer, prendre en compte que les gens se retrouvent à la fois en difficulté de couple, mais les enfants sont là en permanence. On a eu surtout pour l'instant à gérer des craintes de cohabitation. La préoccupation qu'on a aussi, ça va être le facteur alcool. Nous sommes qu'à la deuxième semaine de confinement, donc on s'attend probablement aussi à ce que les tensions évoluent.
Depuis lundi, le major Guyard a également instauré une réunion téléphonique hebdomadaire avec les associations du département pour ne passer à côté d'aucune situation à risque.
Bonjour Michel Laveau.
Bonjour à vous.
Porte-parole de la police nationale, merci d'être en ligne avec nous. Sur les chiffres, quels sont ceux dont vous disposez pour les interventions de la police sur les violences conjugales ?
Eh bien, je peux vous dire et vous confirmer que l'augmentation des violences intrafamiliales est constatée. Donc, effectivement, c'est plus de 36% de violences sur le ressort de la préfecture de police. Et sur le ressort de la police nationale, dans les zones police nationale en France, la part des violences conjugales dans ce qui est signalé sur les plateformes de signalement de type chat a été multipliée par 3 ces 15 derniers jours. Donc oui, il y a une augmentation statistique. Nous notons, nous, que les interventions de patrouilles de police qui viennent au domicile des personnes restent certes stables, mais cette stabilité nous pose question et pose de toute façon globalement la question des modes de contact en temps de crise sanitaire, les modes de contact que peut avoir la population avec la police nationale.
Ben justement, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On éloigne le conjoint violent ou on ne fait que le sermonner ? Qu'est-ce que la police a le droit de faire ? Et spécialement, comme vous le dites très justement, Michel Laveau, en cette période de confinement, avec la distance qu'on doit avoir avec les gens.
Écoutez, il y a deux points essentiels. Il y a d'abord, et il ne faut jamais l'oublier, il y a le 17. Le 17 Police Secours, c'est notre ligne téléphonique qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est notre ligne d'urgence. Vous êtes victime d'une infraction, vous êtes témoin d'une infraction qui se déroule devant vous, vous composez le 17. Et je lance un appel d'ailleurs aux voisins. La vigilance des voisins dans ce temps de confinement est essentielle. Ces affaires de violence, la délinquance est l'affaire de tout le monde et les affaires de violence conjugale sont encore plus l'affaire de tout le monde.
Mais il ne faut pas avoir de remords en se disant on va faire de la délation. Ouais.
On est loin de la délation. La question est de venir au secours d'une victime ou d'une personne qui se sent menacée et qui par sa voix, qui par des éclats de voix, va rendre compte d'une situation qui est dégradée. Donc le 17 reste la ligne d'urgence. Ceci posé, évidemment, nous sommes en période de confinement, donc les déplacements sont limités. Des huis clos, j'entendais votre reportage, il y a des huis clos dans les domiciles qui peuvent conduire à des situations très délicates entre potentiellement un auteur et une victime. Et nous avons développé et nous renforçons actuellement nos portails de signalement de type chat, qui sont des conversations par Internet. Et vous pourrez d'ailleurs chacun pour retrouver leurs références et leurs coordonnées sur nos comptes Twitter et Facebook Police Nationale. Mais ces chats permettent à une victime, mais aussi peut-être aussi à une personne qui se sent menacée, d'engager une conversation discrètement, une conversation confidentielle avec un policier spécialement formé et de l'informer de la situation qu'elle est en train de vivre pour ensuite, parce que l'essentiel c'est le contact, nouer le contact avec la police nationale ou les forces de sécurité intérieure pour rendre compte de la situation et qu'ensuite les patrouilles, les interventions à domicile, les enquêtes judiciaires soient déclenchées. La question essentielle, c'est le contact avec la police nationale pour une victime ou une personne qui se sent menacée dans ce moment de crise sanitaire.
Michel Laveau, beaucoup d'associations que nous avons reçues sur Europe 1 mercredi nous disaient qu'elles voyaient arriver de nouveaux profils. C'est aussi ça l'inquiétude de gens qui sont en situation de confinement et qui se révèlent être des agresseurs.
Bien sûr que le confinement modifie les situations. Je crois qu'on est tous bien placés pour quantifier la modification et les changements dans nos vies. Donc le huis clos est quelque chose de potentiellement très nouveau pour des couples, des compagnons, qui finalement ne vivaient pas dans cette atmosphère de huis clos et peut rendre des situations intolérables et potentiellement dangereuses. Donc il y a une vigilance nouvelle, c'est pour ça encore une fois que nous croyons beaucoup dans nos chats et nos procédés chat pour venir en aide à des victimes qui jusque-là n'étaient pas confrontées à ce type de menace, à ce type de violence, mais qui peuvent avoir à avoir des conseils. Vous parliez des associations, évidemment le tissu associatif est fondamental en la matière, mais aussi auprès d'un policier formé qui va répondre et l'informer, rassurer ou en tout cas, éventuellement d'ailleurs, déclencher des mesures plus coercitives.
Et puis, il y a un nouveau procédé qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il a suggéré aux victimes de se rendre en pharmacie pour signaler des violences. Parce que c'est difficile quand on est confiné avec un conjoint violent de prendre le téléphone. Mais qu'est-ce que tu fais ? Même le chat, c'est difficile. Maintenant, il y a ce nouveau système, ce nouveau procédé. Est-ce que ça va marcher selon vous ?
Je crois que la période nous oblige tous à chercher de nouvelles solutions à de nouvelles questions. Alors, bien sûr qu'il faut il faut travailler, et on doit travailler avec les pharmacies. La police nationale a l'habitude des partenariats. Nous travaillons déjà en partenariat avant la crise avec beaucoup d'associations, beaucoup de commerces, les commerçants. Et là, bien sûr, puisque on a tous noté que les pharmacies étaient un point de passage assez régulier, en tout cas des points de passage admis en matière de déplacement, et il est évident que dans le recueil de la parole, la pharmacie peut avoir son rôle à jouer, étant entendu que la police nationale ou les forces de sécurité intérieure auront préalablement établi des méthodes de contact avant, après, pour ensuite transmettre ce recueil de la parole qui aura été fait dans l'urgence auprès d'une personne qui n'est quand même pas un professionnel de la sécurité et un professionnel de l'enquête. Donc il y a un relais, en fait, toute la question c'est le relais que nous allons monter et qui sera mis en place entre le recueil de la parole de la victime, le pharmacien par lequel cette parole passe, et ensuite le policier qui récupère cette parole et qui lance la réaction.
Michel Lavaux, une dernière question, je vais vous demander de répondre court parce que vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure, parce que vous avez insisté, et vous avez bien fait, sur le rôle de l'appel et de l'appel au 17. En ce moment, il y a le confinement, en ce moment, il y a une distanciation à avoir, ça vaut aussi pour les forces de l'ordre. Comment on fait pour éloigner un conjoint violent en opération ? Réponse courte.
En opération, on appelle le 17 et on informe le policier qui est au bout du fil de la situation.
Et il arrive chez vous, il arrive au domicile, qu'est-ce qui se passe ?
Appelle à la radio. Eh bien, vous racontez immédiatement ce qui vous est arrivé et les policiers peuvent interpeller le conjoint violent immédiatement.
Eh bien, ça vaut la peine d'être souligné. Merci beaucoup, Michel Lavaux, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
On va s'intéresser, Pierre, si vous le voulez bien maintenant, à la pénurie de masques. C'est un sujet que vous connaissez, hein, on vous en parle à peu près tous les jours. Mais vous allez voir que les dons se multiplient. De grandes entreprises du monde entier donnent leur stock de masques. Et la marque de textile CEA va d'ailleurs en donner plusieurs milliers à la France.
Ah oui, au niveau européen, ce sont 240 000 masques que CEA va donner. Pour la France, 36 000 répartis pour la police et pour les hôpitaux, Guillaume Bier.
Oui, 24 000 masques offerts dès hier à 3 hôpitaux de l'Est parisien, Meaux, Coulommiers et Marne-la-Vallée, et 12 000 autres masques pour les policiers, explique Damien Deforest, le directeur général de CEA France.
Il faut qu'il y ait vraiment une solidarité nationale globale, totale. C'est une décision de notre entreprise de protéger les gens qui nous protègent.
Ces 12 000 masques pour les policiers, ils sont actuellement dans les bureaux du syndicat Alliance, qui sert d'intermédiaire pour les redistribuer aux gardiens de la paix. Ils en ont besoin, insiste le secrétaire général d'Alliance, Fabien Van Hemelric.
On essaye de faire ce que n'a pas été capable, ou plutôt en mesure de faire, le gouvernement aujourd'hui. Il est inconscient, irresponsable de faire patrouiller des collègues qui doivent faire respecter un confinement sans matériel de protection nécessaire. Il en va de leur santé, d'un danger vis-à-vis de leur famille, leurs femmes, leurs enfants. C'est juste pour faire simplement notre travail, pour protéger nos collègues et protéger les concitoyens.
Et son syndicat lance d'ailleurs plus largement un appel aux dons à d'autres grandes entreprises qui voudraient elles aussi offrir des masques pour les policiers. Une adresse mail a été spécialement créée pour recevoir les propositions.
Merci Guillaume Bier, cette adresse mail vous la retrouvez sur notre site europe1.fr.
Et nous sommes en ligne, Pierre, avec Olivier Perra, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de l'AFNOR, l'organisme français de normalisation volontaire, hein, membre des organismes européens internationaux de normalisation volontaire. Vous avez mis en place, ça y est, aujourd'hui, et on est en mesure de le dire sur Europe 1, une sorte de guide qui va permettre aux industriels, à tous ceux qui veulent fabriquer des masques, de suivre des recommandations.
Oui, fait. Déjà, je souhaite saluer le personnel de santé qui font un travail absolument remarquable, c'est très clair. Et c'est vers eux que les masques FFP2 et chirurgicaux doivent aller en priorité. Ce sont eux qui nous sauvent, qui sauvent nos proches. Donc, priorité absolue. Mais côté AFNOR, comme nous avons la tradition justement de contribuer à un monde plus sûr et plus solidaire, eh bien, il y a une semaine de cela, nous avons engagé un travail avec 150 experts de différents horizons, des experts publics, des experts privés, des instituts techniques, etc. Et on a fait en mode confiné, parce qu'on est tous confinés, il faut rester chez nous, un travail tout à fait colossal. Nous avons publié depuis maintenant 7 minutes sur le site AFNOR un référentiel intitulé AFNOR Spec Masque Barrière. ces masques barrières ont vocation à compléter les gestes barrières et les mesures de distanciation. Et donc, ils sont destinés à équiper toutes les professions qui ne sont pas des personnels de santé, mais qui peuvent tout à fait, parce qu'ils sont en contact avec du public, je pense à la distribution, je pense aux postiers, je pense aux services publics hors services de santé. Et donc, cette AFNORSPEC, elle donne des moyens, elle donne des plans, elle donne des patrons qui permettent à des entreprises industrielles, j'étais ce matin avec le comité stratégique de filière, Mode et Luxe, présidé par M. Dessène de Hermès. Et en l'occurrence, je peux vous garantir que tous les industriels sont tout à fait dans les starting blocks pour produire. Et donc, ils seront certainement très intéressés par cette AFNORSPEC à laquelle ils ont contribué. Et en fait, ça veut dire que des entreprises qui peuvent être intéressées pour la protection de leurs propres salariés pourront passer commande en connaissance de cause. Et enfin, nous avons également aussi prévu la possibilité, parce qu'on a vu beaucoup de créativité avant que je passe à l'antenne, j'ai entendu de la créativité sur le congélateur et le coronavirus. J'ai vu aussi beaucoup de choses, nous avons vu beaucoup de choses qui étaient un petit peu, on va dire, exotiques sur Internet. Et donc, notre but, c'est aussi par cet AFNORSPEC de partager des bonnes pratiques. Il y a donc une rubrique très importante qui est la mise en œuvre du masque. Un masque peut être très performant.
Avec des tutos, par exemple, c'est ça ?
Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, le document qui est téléchargeable depuis maintenant 10 minutes, il y a effectivement des tutos, des graphiques, etc. Et il y aura en lien avec ce tuto, avec tout ce qu'il faut au sein du fichier PDF téléchargeable gratuitement. J'insiste, c'est une cause nationale. Le PDF est téléchargeable gratuitement. On vous demande simplement les coordonnées de manière à ce que vous puissiez bénéficier de la version 1.1, 1.2 quand elles sortiront le moment venu. Et donc, ces tutos sont très importants.
Oui, parce que c'est une première version. Vous comptez l'améliorer, justement.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a préféré avoir quelque chose de rapidement disponible. Et il faut d'habitude 1 an et demi pour faire une norme. Là, on a mis 7 jours, jour et nuit. Moi-même, j'ai un petit peu donné de moi-même. 7 jours, jour et nuit pour faire ce document, qui est un document que je considère d'excellent calibre, qui sera bien sûr amené à évoluer. J'espère qu'il y a pas trop d'imprécisions. Surtout, n'hésitez pas à faire revenir. Il y a une adresse sur le site internet AFNOR pour nous faire part de tout commentaire, nous signaler tout tuto ou tout document qui vous paraîtrait intéressant, on en fera de l'analyse. Et s'ils nous paraissent pertinents, nous n'hésiterons pas à flécher vers ces tutos. En revanche, on a constaté aussi qu'il y avait des tutos parfois un peu dangereux, du type de la créativité qui était évoquée par rapport au coronavirus dans le congélateur. Ça ne marche pas. Quand on parle de température pour stériliser, par exemple, c'est 56 degrés pendant 15 minutes minimum. On ne peut pas stériliser en dessous, vous voyez. Et on a vu des tutos qui étaient incorrects là-dessus. Donc, nous avons regardé ça avec des médecins hygiénistes, avec vraiment des gens très, très compétents. Et donc, ce document représente le meilleur effort, je pense, que l'on peut aujourd'hui faire. Et surtout, télécharger librement ce document, utilisez-le et faites-nous des retours d'informations de manière à ce que le moment venu, nous puissions faire une version 1.1 encore meilleure.
Merci beaucoup Olivier Perra de ces explications et je vous invite évidemment à rester à l'écoute tout à l'heure de la France Bouge parce que tous ces acteurs qui se mobilisent seront justement avec nous entre 13h et 14h et vous allez voir que les efforts sont nombreux effectivement Pierre pour pouvoir fabriquer un maximum de masques. Rendez-vous dans la France Bouge bien sûr.
À 20h, on a pris la peine, ou en tout cas l'habitude surtout, d'applaudir le personnel médical. Un beau moment de communion dans le voisinage, Raphaël.
Oui, mais qui ne dure parfois que pour les applaudissements. Depuis le début du confinement, la cohabitation dans les immeubles, aux murs les plus fins, vire parfois au cauchemar. Et vous allez voir que les incivilités se multiplient. Pierre Herbulot.
Perceuse, ponceuse, coup de marteau, Mélanie a l'impression que ses voisins du dessus refont complètement leur intérieur depuis le début du confinement.
Les travaux commencent le matin à partir de 6h30 jusqu'à 18h, toute la journée, non-stop. Surtout que, étant confinée, j'ai pas vraiment le choix pour pouvoir m'échapper du bruit. C'est un petit peu compliqué au quotidien.
Pour d'autres, ce sont les cours de guitare de l'appartement d'à côté en pleine conférence téléphonique ou la télé volume au max de la voisine un peu sourde. Les plaintes de nuisance sonore ont explosé.
C'est pas une pénurie de denrées alimentaires que nous vivons, c'est une pénurie de civisme.
Éric Poli, directeur général de l'Office public pour l'habitat du Jura.
Il est tout à fait logique pour ces personnes qui sont confinées de s'amuser, d'écouter de la musique à 23h le soir, de courir dans tous les sens à 1h du matin. Il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de point de repère. Un peu de bon sens.
Des incivilités qui ne se limitent pas aux appartements, dit-il. Certains locataires ne vont plus jusqu'au local poubelle par crainte du virus et laissent leur détritus dans la cage d'escalier.
Un reportage de Pierre Herbulot, midi 46.
Europe 1.
Restez avec nous, on va s'intéresser aux dividendes des actionnaires. Vous allez voir que le gouvernement et les entreprises ne sont pas forcément toujours sur la même longueur d'onde. A tout de suite. Bruno Le Maire appelle les grands groupes à la modération, Pierre, dans le versement des dividendes aux actionnaires. C'est une des conséquences du coronavirus.
Oui, pour le ministre de l'économie, mais aussi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, mais aussi le patron de la CFDT, Laurent Berger. Il faut garder cet argent pour passer la crise et aider les salariés. Pourtant, c'est un message diversement reçu par les intéressés. Vous avez enquêté, Maud Descamps.
Eh bien oui, dès la demande du ministre, certaines entreprises ont joué aux bons élèves, comme par exemple JC Deco, Airbus ou encore Auchan Holdings. Mais derrière ces annonces, le message passe mal dans certaines entreprises. Selon nos informations, l'AFEP, qui rassemble les plus grandes entreprises françaises, vient d'écrire au ministre pour lui dire « on ne veut pas de loi ». Si certaines entreprises peuvent faire ce geste, c'est parfait, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup d'actionnaires salariés. Et justement, pour Aldo Sicurani de la Fédération des investisseurs individuels, il ne faut pas oublier que ce sont les actionnaires qui prennent tous les risques.
Les salariés ont un certain nombre de garde-fous qui leur permettent de percevoir de leur rémunération, alors que les actionnaires, eux, ils subissent l'intégralité du risque. Quand l'action baisse de 80%, il n'y a personne qui vient leur dire « ah oui, mais on prend en charge la moitié de la baisse ».
Maud, l'État est lui-même actionnaire de nombreuses entreprises. Quelle est la politique dans ces entreprises, justement ?
Alors oui, toujours selon nos informations, le ministre a signé tard hier soir un courrier à toutes les entreprises où l'État est actionnaire. Il leur demande de la modération du côté des dividendes. Il faut donner l'exemple, nous disait-on hier à Bercy, et certaines entreprises qui pourraient avoir besoin de soutien de l'État, comme par exemple Air France ou Renault, seraient inspirées de bien entendre ces consignes, dit-on, dans les couloirs du ministère. Mais malgré tout, pour certains actionnaires, ce n'est pas normal de couper les dividendes dans les entreprises qui fonctionnent bien en ce moment, comme par exemple dans la téléphonie, estime Pierre-Henri Leroy du cabinet de conseil Proxinvest.
Il n'y a aucune raison qu'elle passe en dividende. Les investisseurs, vous savez, c'est aussi beaucoup de petits gens. Et donc, il faut absolument que les dividendes soient servis. L'actionnaire doit être payé le dernier s'il en reste.
Mais dans cette période où tout le monde se serre la ceinture, le ministre de l'économie compte bien en faire une affaire politique.
Merci pour cette enquête. Maud Descamps.
Le coronavirus qui a, vous le savez aussi, Pierre, entraîné dans de nombreuses villes des fermetures de marchés.
Oui, résultat des commerçants, des maraîchers, des petits producteurs en vente directe qui doivent s'adapter s'ils ne veulent pas mettre la clé sous la porte. Une seule solution, la livraison à domicile. Un nouveau métier pour ces commerçants dont les coordonnées sont d'ailleurs diffusées sur les réseaux sociaux ou alors par les mairies.
Exemple, dans la région d'Arras et de Béthune, ces services de livraison à domicile vont permettre à ces commerçants en quelque sorte, de limiter la casse. Lionel Gougelot.
Maraîcher dans la région d'Arras, Thierry Hurier se réorganise dans l'urgence pour assurer dès demain ses livraisons de légumes à domicile.
Je vais prendre les commandes des gens, tout préparer dans des caisses avec leur nom, puis adresse, puis je vais les livrer. Comme ça à faire, mais pour commencer, je vais commencer comme ça.
Des livraisons qui permettront de garantir un minimum de chiffre d'affaires pour ces commerçants privés de marché. Christelle Froment pourra ainsi écouler sa production de beurre et de produits laitiers issus de son élevage.
Tout à fait vital, parce que les charges vont tomber et on ne peut pas rester sans revenus. Si on ne travaille pas, on n'a rien.
Thibaut Marchand, lui, y voit aussi une façon de fidéliser la clientèle.
Moi, j'ai un peu de personnes âgées. Après, avec la situation actuelle, ils ne pourraient pas bouger, donc ils ne pourraient pas venir au marché. Bah, comme je dis, ils nous nourrissent tout au long de l'année. Bah, maintenant, c'est l'inverse. Il faut rendre service aux clients, en fin de compte.
Un service aux clients et des kilomètres en perspective que Kevin Guérin, marchand de fruits et légumes, envisage même comme une sorte de mission.
On a deux fois plus de boulot. Vous voyez, là, on est encore en train de préparer des commandes pour que j'appelle mon fournisseur là tout à l'heure. On n'a pas encore mangé de la journée, mais je m'en fous. Si ça dure deux mois, je ferai pendant deux mois des livraisons.
Et pour chaque livraison, promettent les commerçants, toutes les précautions, tous les gestes barrières seront bien sûr strictement respectés. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Mais il y a toujours des irréductibles, comme toujours. À Grenoble, le maire Éric Piolle considère que ces marchés sont vitaux pour les agriculteurs et les consommateurs. Résultat, dérogation en lien avec le préfet et des marchés du coup au format très réduit avec quand même des mesures de sécurité renforcées. Jean-Luc Bougeon.
Oui, pas plus de 5 étals simultanément, là où il y en avait parfois jusqu'à 50 ou 60. Donc ce seront vraiment de tout petits marchés avec des producteurs qui tournent. Ce ne seront pas toujours les mêmes afin de garantir à chacun un minimum de revenus. Mais globalement, on retrouvera un stand de fruits, un stand de légumes, la viande, le poisson, le fromage. Et donc sont mises en place des mesures de distanciation renforcée pour éviter tout contact et toute propagation du virus, explique Lucille Lheureux, adjointe en charge des marchés à la ville de Grenoble.
Les clients sont tous maintenus à une distance d'au minimum d'un mètre des étals. Donc il y a un système de barrière qui empêche les clients de s'approcher des étals. Et ensuite, les clients ne se servent pas. En fait, quand vous allez dans une supérette, une grande surface fermée, c'est à vous de prendre vos produits et potentiellement vous toucher, vous reposer. Donc les gens déposent leurs mains un peu partout dans le magasin. Quand vous arrivez sur un marché, désormais, c'est le commerçant qui vous sert. Donc le client n'a que son cabas et c'est le commerçant qui prend les légumes, qui les pèse, qui les met dans le contenant du client. Donc il n'y a pas de contact entre les clients et les produits.
Voilà, alors pour faire respecter scrupuleusement ces consignes sur les 35 marchés de la ville, il y aura un responsable de la sécurité du début à la fin. Le but du maire de Grenoble, qui a bataillé pour obtenir cette dérogation du préfet, c'est de maintenir des points de contact alimentaire, notamment pour les personnes âgées, mais aussi de soutenir les producteurs locaux, parfois bio, qui sont très nombreux dans la région de Grenoble, et de leur offrir un débouché, surtout vis-à-vis des supermarchés qui ont le droit de rester ouverts sans beaucoup de restrictions.
Merci Jean-Luc Beaujean. Elle a raison, cette dame. Et d'ailleurs, on pourrait lancer un appel sur Europe 1, mais dans les supermarchés, arrêtez de prendre les légumes et les fruits et de les reposer. Enfin, vous les prenez, vous les gardez dans votre cabas. Voilà, ça s'appelle du civisme. Voilà.
Exactement, vous avez bien raison de le dire, Pierre. On parle foot français parce que, vous le savez, Michel Hidalgo est décédé hier à l'âge de 87 ans. Premier sélectionneur à avoir offert un titre international au foot français, l'Euro 1984, que de souvenirs. Mais saviez-vous qu'il était digne d'un personnage de polar ?
Ben oui, puisque Michel Hidalgo a poursuivi sa carrière à Marseille auprès de Bernard Tapie à la fin des années 80. Un passage à l'OM forcément marqué par des anecdotes croustillantes, comme ce jour où Michel Hidalgo s'était rendu à Naples pour tenter de recruter Diego Maradona, Jean-François Pérez.
Oui, en effet, nous sommes au printemps 1989. Bernard Tapie cherche la bonne idée pour faire entrer l'OM dans une autre dimension. Hidalgo lui souffle Maradona, mais attention, prévient-il, c'est cher, difficile, et puis c'est à Naples. Fonce, lui dit Tapie, qui lui prête son jet privé. Michel Hidalgo entre dans la maison bunkerisée de celui qui est alors un demi-dieu à Naples. Problème, on fête ce jour-là le baptême de sa fille. Il y a du monde partout, or Hidalgo est en mission secrète, il ne faut pas qu'on le voie. On l'installe dans la cuisine, Maradona n'a pas le temps. Quand il finit par s'asseoir plusieurs heures plus tard, il se lâche. Il n'en peut plus de cette vie de reclus cernée par la Camorra. Hidalgo lui fait miroiter une villa avec piscine à Cassis dans un contexte bien moins oppressant. Quand il rentre à Marseille, il est persuadé que Maradona va signer à l'OM. Mais il se fait piéger par un journaliste. La rencontre fait la une des journaux. Bernard Tapie est furieux. Les négociations vont se poursuivre. Un contrat sera même rédigé. Mais l'affaire finira par capoter. Le président de Naples dira même « Si Maradona était parti, je ne serais sans doute plus vivant ». Entre Tapie et Hidalgo, les relations ne seront plus jamais les mêmes. Hidalgo quittera l'OM 2 ans plus tard, mais s'installera à Marseille, où il s'est éteint hier.
Jean-François Pérez.
Oui, et si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir d'autres histoires sur l'OM, notamment avec l'histoire illustrée de l'OM aux éditions Hugo et compagnie. C'est signé, évidemment, Jean-François Pérez.
Allez, un peu de coloriage. Je sais que vous êtes fan.
On change de ballon finalement.
Oui, alors cette période de confinement, là, c'est la Fédération française de rugby qui propose d'ailleurs en ligne aux plus jeunes des portraits d'internationaux de rugby pour les fans. C'est à colorier et le succès est déjà au rendez-vous, Axel May.
Oui, la bonne dynamique retrouvée du 15 de France lors du dernier tournoi Destination explique sans doute le succès de ces coloriages que propose la Fédération française de rugby. Les portraits de Charles Olivon, le nouveau capitaine des Bleus, ou de la star montante Romain Ntamack sont à télécharger sur le site de la Fédération. Le 15 féminin n'est pas oublié avec par exemple la demi d'ouverture Pauline Bourdon. Seule condition nécessaire, avoir une imprimante bien sûr, et il n'y a alors plus qu'à colorier ces portraits. Laurent Latour est le directeur du numérique à la Fédération de rugby.
On était à plus de 10 000 téléchargements à peine 3 jours après la sortie de l'opération. Et aujourd'hui, une semaine plus tard, on est déjà à plus de 25 000. Ça nous a poussé à produire d'autres exemples de joueurs et de joueuses à colorier. On a vu aussi que d'autres fédérations faisaient la même chose. Ça nous fait très plaisir.
Des enfants envoient même leurs propres dessins, si bien que la Fédération française de rugby souhaite en faire une exposition numérique quand le confinement sera terminé. Et pour les plus grands, d'autres activités sur les réseaux sociaux sont proposés avec des quiz et des mots croisés sur le thème de l'Ovalie ou encore chaque jour un essai mémorable du 15 de France à revoir en vidéo.
Et tout cela sur le coloriage, Pierre.
Ah oui, mais c'est surtout, moi j'ai hâte qu'on fasse un sujet à la fin du confinement sur le thème les enfants, ils n'en peuvent plus du coloriage. Hein, voilà, ils abandonnent, c'est fini. Parce qu'on leur demande tout le temps de colorier les trucs.
Je suis privée de coloriage en ce moment, j'ai pas de cartouche pour un
Oh ma pauvre ouais. Merci Raphaël.
Merci Pierre. À lundi, évidemment. C'est l'heure de la météo. Annie Saad a dit encore un temps maussade dans le sud de la France.
Oui, effectivement, Raphaël, avec sur les Alpes du Sud, la Corse, des averses qui vont se développer dans l'après-midi. Alors, il faut savoir qu'elles seront moins fortes que hier. Et puis sur les Pyrénées orientales et le littoral méditerranéen, quelques gouttes sont possibles. Dans le sud-ouest, les éclaircies reviennent, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Et puis partout ailleurs, le temps reste sec avec de belles périodes ensoleillées. Cet après-midi, les températures remontent un petit peu. 12 à Caen, 13 à Clermont-Ferrand, 15 à Toulouse, Rennes, Strasbourg, Nancy, Limoges, Paris, 18 à Avignon. Et puis un mot très rapide sur le week-end. Samedi, c'est nuageux et humide dans le nord-ouest. Dimanche, c'est venteux et couvert sur toute la France. Et lundi, une belle baisse des températures.
Merci, Anissa. Restez avec nous. Comment doter la France entière de masques efficaces? On va essayer de répondre ensemble à cette problématique. C'est la France qui bouge, qui se bouge avec vous et grâce à vous.